Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, ou peut-être, devrais-je dire, aujourd'hui, de ce qu'il reste de l'économie mondiale. Car l'épidémie de coronavirus frappe les uns après les autres, les centres économiques vitaux de nos économies. Après la Chine, après l'Europe, ce sont les États-Unis qui sont en première ligne, et bientôt ce seront les pays africains. Face au ralentissement, pour ne pas dire à l'arrêt de l'économie pour cause de confinement généralisé, les gouvernements qui en ont les moyens multiplient les plans de soutien à l'économie. Le dernier plan en date est américain, 2000 milliards de dollars. De leur côté, les banques centrales en Europe, en Inde, aux États-Unis et en Afrique, pour ne citer que ces pays et ces régions, utilisent les moyens qui sont les leurs pour soutenir l'activité. Alors, quelle est l'importance de ce que font ces banques centrales et où en est l'économie américaine ? Tels sont les deux sujets que nous allons développer au cours de cette émission avec l'aide de trois invités que je vous présente maintenant au téléphone. Bonjour Jésabelle Coupé-Soubéran.
Bonjour Jean-Pierre.
Jésabelle Coupé-Soubéran, vous êtes maître de conf, dit-on couramment, maître de conférence en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et également conseillère éditoriale au CEPI, un des grands centres de recherche en économie internationale ici à Paris. Avec vous dans cette émission, Gilles Dufresneau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille, membre de l'École d'économie de Marseille, et de 2004 à 2008, vous avez été conseiller du commissaire chargé des politiques économiques au sein de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Enfin, je termine ce premier tour de table téléphonique par Emmanuel Jessua, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Jessua, vous êtes directeur des études chez Rexecode, un institut privé d'études économiques considéré comme proche des milieux d'affaires ou du patronat. Au cours de cette émission, un reportage de notre correspondant au Texas, Thomas Harms. Nous appellerons notre correspondant permanent en Californie, Eric De Salve, et aussi Pierre-Yves Dugas, l'homme de RFI à Wall Street, mais qui, par les hasards de la vie, se trouve aujourd'hui confiné en France. Commençons cette émission par un point, si vous le voulez bien, sur la situation économique mondiale. Nous enregistrons cette émission le vendredi 27 mars 2020, à Paris, il est 10h du matin, un peu plus. Jésabelle Coupé-Soubéran, dans quel état se trouve aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'économie mondiale, vue de votre lucarne d'économiste confiné ?
L'économie mondiale se trouve aujourd'hui, je pense, dans une situation d'incertitude radicale. Hein. C'est vraiment le terme qui convient. Alors, dans cette incertitude radicale, il y a une certitude tout de même, c'est que la récession va être mondiale et profonde. Et il faudra savoir ensuite bien comment s'en relever. Donc, on est dans une situation vraiment inédite qui appelle des réponses de politique économique tout à fait inédites. Les réponses sont fortes, reste à savoir tout de même si elles sont suffisamment innovantes pour faire face et si elles prennent en compte aussi, alors outre évidemment l'urgence du moment, si elles prennent en compte aussi l'avenir.
Gilles Dufresneau, votre point de vue depuis Marseille sur cette crise économique, est-ce qu'on en mesure déjà la portée, l'importance, la profondeur ?
Alors je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jésabelle, c'est-à-dire que c'est une crise... tout le monde est d'accord, hein, sans précédent. Je ne suis pas complètement convaincu sur le fait qu'on en mesure complètement les effets. Il va falloir attendre encore quelques mois. Mais ce que l'on peut dire déjà, c'est que un certain nombre d'économies ont vu leur capacité de production fortement réduite et que déjà, ça se traduit par un début de remontée fulgurant des taux de chômage aux États-Unis, mais vraisemblablement aussi dans pas mal de pays européens. Et puis j'ajouterais simplement que ce ralentissement de l'économie mondiale va sans doute être accru par le fait que la Chine est au ralenti également.
Emmanuel Jessua, est-ce que ce ralentissement chinois, c'est une hypothèque sur la croissance économique mondiale ?
C'est évidemment une hypothèque, mais il n'y a pas que le ralentissement chinois, il y a le ralentissement de l'ensemble des pays qui sont touchés par le coronavirus. Hein. Contrairement à 2009, il ne s'agit pas ici d'une crise financière, mais c'est un choc qui affecte l'économie réelle, qui confine la main-d'œuvre à domicile et donc qui va se traduire par pendant un mois, deux mois, on ne sait pas exactement, c'est là où il y a une incertitude forte. perte de la force de travail et donc de la capacité de production au niveau mondial. Et donc, on va effectivement faire face à une récession potentiellement très importante en 2020, et ce qui pose la question des outils de politique économique pour permettre à la fois d'atténuer les conséquences économiques et sociales de ce choc, à la fois pour les ménages et pour les entreprises, et de favoriser le rebond.
La semaine dernière, on parlait ici, dans cette émission Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, de l'économie européenne dans la tourmente. Depuis quelques jours, c'est l'économie américaine qui est entrée dans une zone de tempête. Le Congrès et l'exécutif se sont mis d'accord sur un plan de soutien à l'économie de 2000 milliards de dollars. Tout le monde dit que c'est un plan historique par son importance. Est-ce que ça l'est vraiment, Emmanuel Jessua?
C'est un plan, effectivement, extrêmement important, qui, évidemment, va fragiliser la situation budgétaire de l'État fédéral, qui aussi traduit le fait qu'il y a très peu de filets de sécurité sociale aux États-Unis. C'est-à-dire notamment le fait qu'on va faire des chèques directement aux ménages pour compenser le fait qu'il y a une indemnisation chômage assez faible aux États-Unis, le fait aussi qu'il y a un marché du travail extrêmement flexible qui fait que le chômage monte en flèche. Hein. Rien qu'hier, il y a eu plus de 3 millions d'inscriptions.
3 300 000
fait que, effectivement, les finances publiques qui, du coup, doivent compenser dans une situation exceptionnelle extrêmement rapidement.
Deux mots, si vous le voulez bien, sur ce plan d'aide américain. Il faut préciser les choses. Il prévoit l'envoi d'un chèque de 1200 dollars par personne, à condition que les revenus annuels n'excèdent pas 75 000 dollars. Ce chèque devra être reçu d'ici le 6 avril prochain. Et le montant maximal de l'allocation au chômage, dont vous parliez, Emmanuel Jessua, sera rehaussé de 600 dollars. Ça, c'est la partie sociale, mais il y a aussi une partie pour les entreprises. Pour les petites entreprises, il y a 377 milliards de dollars d'assistance et le texte inclut 500 milliards de dollars de prêts et d'aides pour les plus grosses entreprises avec un contrôleur général qui sera chargé de surveiller l'usage qui sera fait de ces sommes. C'est un plan vraiment historique, Gilles Dufresneau.
Oui, c'est un plan qui est historique, mais qui est à la hauteur en fait de la gravité de la situation. Vous l'avez rappelé, le nombre de chômeurs augmente de manière extrêmement importante. Donc, ça traduit plusieurs choses. Ça traduit d'abord le caractère pragmatique en fait des Américains qui ont cette fois-ci réagi tout de suite. C'est un plan qui est important parce que cette fois-ci, à la différence de ce que l'on a observé en 2008, la crise, elle part du secteur réel. En 2009, ça partait du secteur financier, donc c'était les banques centrales qui étaient sur le devant de la scène. Là, clairement, ce sont les États et les Américains ont réagi. Absolument. Donc, c'est vraiment à la fois historique, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut rappeler quand même qu'on parle de près de 2000 milliards de dollars. Ça représente environ 10% du PIB américain. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et ça va peut-être pas s'arrêter là.
Mais Jezabel Coupet-Souberan, c'est un miracle qu'avec un homme comme Trump au pouvoir, qui est contre l'État, qui n'arrête pas de le fustiger, cet État fédéral mette une somme colossale sur la table.
Non, je crois qu'il n'y a rien de miraculeux. Là, ce qui préoccupe Donald Trump, c'est la survie de l'économie américaine, plus que la survie sans doute des Américains eux-mêmes. Pour compléter ce qui a été dit précédemment, ce que je mettrais en avant, c'est que, certes, alors là, l'État pilote l'aide, et c'est bien normal dans cette situation d'urgence, mais ce qui est assez caractéristique aux États-Unis, c'est qu'il y a une coordination très forte entre la politique budgétaire et la politique monétaire. C'est-à-dire que l'État américain pilote cette aide avec ce plan de 2000 milliards de dollars et la Fed finance par des achats massif de titres sur les marchés. Et donc, ça veut dire que ce financement va se traduire par une augmentation très forte de la dette.
Alors, on va parler de la Banque centrale, de la Fed et de ce que font en général les banques centrales un peu plus tard dans l'émission, Jezabel. Partons tout de suite sur le terrain au Texas. Le confinement n'est pas instauré dans tout l'État. Chaque ville décide elle-même de la conduite à tenir. Mais l'impact de la pandémie sur l'économie est bien visible. Dans de nombreuses villes comme Dallas, Austin ou Houston, seules les activités essentielles ont le droit de fonctionner. Parmi elles, on trouve l'alimentation, les banques, mais aussi l'énergie. L'économie texane, on le sait, c'est plusieurs piliers. La finance à Dallas, les nouvelles technologies à Austin, l'élevage dans l'Ouest, mais surtout et avant tout, l'or noir, le pétrole. Le Texas est le plus grand producteur d'or noir aux États-Unis et avec un prix du baril au plus bas, l'économie texane vacille. C'est un reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Thomas Arntz au Texas.
À Houston, c'est le signe que cela ne va pas bien. Le plus grand salon du secteur pétrolier au monde, l'Offshore Technology Conference, n'aura pas lieu en mai prochain. Il faut dire que l'industrie pétrolière est au plus mal, comme l'explique le spécialiste de l'énergie, Loren Steffi.
L'industrie pétrolière est prise dans une sorte de triple étau. D'un côté, vous avez la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui a engendré une énorme surproduction qui inonde le marché et fait baisser les prix. En plus de cela, beaucoup d'entreprises sont sous pression des investisseurs, des banques et doivent régler leurs dettes. Si vous ajoutez à cela le coronavirus qui retire toute la demande, l'essence ne se vend pas cher actuellement, mais personne n'en profite.
Le prix du brut produit au Texas a en effet chuté de 45% lors du dernier mois, aux alentours de 23 dollars. Or, il faudrait que le baril soit à 40 ou 50 dollars pour être rentable. Du coup, les firmes pétrolières, qui sont les plus gros employeurs de la région, envoient les premières lettres de licenciement et la ville de Houston, capitale mondiale de l'énergie, est en première ligne. Edouard Hirsch est professeur d'économie de l'énergie à l'université de Houston.
Nous avions déjà perdu 250 000 emplois lors de la dernière guerre commerciale de 2014 à fin 2016. Les prévisions pour Houston avant le virus partaient sur une création de 60 000 emplois. Or aujourd'hui, on est plus pessimiste et on estime que cela va coûter environ 44 000 emplois. Cela fait une balance de 100 000 emplois perdus. Les premiers à perdre leur emploi sont les entreprises de services. Les licenciements ont commencé il y a 2 semaines.
Ainsi, l'entreprise de prospection et de forage franco-américaine Schlumberger a annoncé mardi une réduction de son budget de 30%. Et son concurrent Halliburton a imposé le travail à mi-temps à 3500 salariés à Houston, leur amputant la moitié de leur salaire. Selon le Financial Times, l'industrie pétrolière subit sa pire crise depuis un siècle. C'est aussi ce qui se dit dans les milieux de l'énergie, comme le rapporte Loren Steffi.
C'est comme en 1986. Ce n'est vraiment pas bon et ça va durer longtemps. Il a fallu 15 ans pour s'en remettre. Même les plus grosses entreprises ont dû fusionner pour rester à flot. Exxon et Mobil, BP qui a acheté Amco et Arco. Ça pourrait être aussi grave, ça pourrait même être pire.
Au total, 3,2 millions d'emplois dépendent du pétrole dans la région de Houston et déjà 10% d'entre eux n'ont plus de revenus.
Un reportage signé Thomas Arms, qui est au Texas, aux États-Unis. Emmanuel Jessua, bon, il y a plein de raisons pour expliquer que les prix du pétrole se cassent la figure. Mais ce qui ressort de ce reportage, c'est que la situation pourrait obliger l'industrie pétrolière, et au-delà, on pense à des pans entiers de l'industrie américaine, à se consolider, c'est le mot consacré qu'on emploie, c'est-à-dire qu'il y aurait des faillites, des entreprises qui vont en racheter d'autres, des fusions, etc. Est-ce que c'est un scénario imaginable, ça ?
C'est un scénario imaginable, effectivement. Le seuil de rentabilité, on est très très loin du seuil de rentabilité de beaucoup d'exploitations. Hein. En particulier, j'avais en tête que pour le pétrole de schiste, il fallait effectivement un prix du baril autour de 50 dollars. Donc là, il est clair qu'avec un baril durablement au niveau à peu près de la moitié de ce seuil, il y aura des recompositions, destruction d'entreprises, des absorptions, et donc il va y avoir une consolidation du secteur, ça me paraît évident.
Mais au-delà du secteur pétrolier, est-ce que c'est un scénario qui peut être répliqué, par exemple dans le commerce, dans les nouvelles technologies, etc.
C'est possible, effectivement. Plus le confinement s'installe et donc la récession, plus il y a un risque qu'il y ait des destructions, des faillites et des pertes irréversibles d'appareils productifs. Donc il peut aussi y avoir des entreprises cotées dont le cours s'effondre et qui peuvent faire l'objet de raids ou d'absorption. Donc il y a clairement des possibilités de recomposition du tissu productif importantes et d'autant plus importantes que la récession s'installera et sera profonde.
Jézabel Coupé-Souberan, Gilles Dufresneau le disait tout à l'heure, cette crise, elle part du secteur réel au lieu de partir du secteur financier, mais est-ce qu'elle peut se propager au secteur financier ?
Oui, tout à fait. Le risque est assez grand. Donc,
On a une crise sanitaire qui induit une paralysie de la production, une chute drastique de la consommation. Ça, c'est anticipé évidemment par les marchés financiers hein, qui, ces dernières semaines, ont été extrêmement perturbés et ont vécu plusieurs crashs parce que ils anticipent cette récession mondiale. Il a fallu des réponses très fortes des banques centrales pour les calmer. Et donc, au niveau financier, on sent bien qu'on est dans des situations de crack à répétition. On est au bord de la crise financière. Et pour les banques, la situation est très problématique aussi parce que elles vont être exposées à des pertes potentielles, à des chutes de prix d'actifs. Tout ça va se répercuter à leur bilan. Est-ce qu'elles auront les reins suffisamment solides pour absorber les pertes? Alors certes, grâce aux réformes qui ont été réalisées à la suite de la crise de 2007-2008, les banques ont un peu plus de fonds propres qu'auparavant, mais la question est-ce que ça suffira? Et il faut bien comprendre que si la crise économique se traduit par une crise bancaire et financière, eh bien cette crise bancaire et financière ensuite aggravera la crise économique. Donc il faut arriver absolument à l'éviter.
Je ne résiste pas à l'envie, à la tentation de faire réagir Pierre-Yves Dugam, le monsieur Wall Street de RFI qui est en ligne, qui ronge son frein dans la perspective de son intervention ultérieurement dans l'émission. Pierre-Yves, comment réagissez-vous, vous, qui suivez au quotidien les cours de bourse, les marchés financiers, à cette situation? À ce que vient de dire Isabelle Coupet-Souberan, est-ce que vous craignez pour la solidité des institutions financières et bancaires américaines?
Si cette urgence sanitaire dure un mois ou deux, ça passe. Si elle dure plus, ça casse. Les banques sont beaucoup plus solides, votre invité vient de le dire. Il y a un mot qui me frappe, que j'avais un petit peu oublié d'ailleurs du vocabulaire financier américain, c'est le mot « forbearance ». C'est un mot qui est revenu à la mode depuis deux semaines. Il faut être indulgent. Le régulateur bancaire américain demande aux banques américaines et à tous les créditeurs de faire preuve d'indulgence. N'allez pas écraser le coût de votre client qui ne va pas pouvoir payer une ou deux ou trois échéances. Comprenez que cette affaire va durer peu de temps, que l'État fédéral, la Fed, le Trésor, va inonder le marché de liquidités pour essayer de faire tenir les agents économiques, que ce soit des entreprises ou des consommateurs. Et ensuite, on va ressortir de là parce que fondamentalement, l'économie américaine, dit-on, elle est bien, elle est frappée par un choc exogène et elle ira bien, elle se réveillera bien si on arrive à absorber ce choc qui peut durer un mois ou deux. C'est stupéfiant de voir qu'en trois jours, Wall Street a regagné 21% après avoir perdu 30%. Le schéma qu'on a dans la tête, c'est que c'est un cauchemar dramatique qui va nous provoquer une dépression pendant, on espère, deux mois, et puis qu'on va en ressortir, on espère très vite. Évidemment, on n'en sait rien.
On n'en sait rien ?
Non, on n'en sait rien, parce que c'est le virus qui va décider la durée de la crise. Jay Powell l'a redit hier. Le virus et la manière de contenir ce virus va décider de la crise. Et ce que Donald Trump nous dit en sous-titre de manière implicite, c'est que en fait, il n'a pas peur qu'il y ait des millions de morts en Amérique. Il a peur que pour résoudre un problème de manque de moyens du système hospitalier américain pour traiter en urgence les personnes qui sont les plus vulnérables. Et alors là, on peut mettre un chiffre, on peut pas trop savoir, plusieurs centaines de milliers, on casse l'économie américaine durablement. Et c'est un problème qu'ont tous les politiques, en France en particulier. Comment peut-on sacrifier l'économie américaine durablement pour limiter, pour ralentir l'engorgement dans les centres de soins urgents des hôpitaux?
C'est grave, un choix question. Terrible. Grave question.
C'est un choix terrible parce qu'on parle de décider de combien de gens vont mourir.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la situation économique internationale, en particulier de la situation économique américaine, avec trois invités, Isabelle Coupet-Souberan, Gilles Dufresneau, et Emmanuel Jessua de Rexecode. Emmanuel Jessua, ce dilemme, est-ce que c'en est vraiment un qui déchire les dirigeants du monde occidental tel que l'évoquait Pierre-Yves Dugas? faut-il, j'hésite à le dire, sacrifier l'économie pour sauver les gens? C'est une vraie question?
Je ne suis pas sûr que la question se pose exactement comme ça. C'est effectivement le virus qui commande. Et donc, il y a clairement une logique sanitaire qui est prédominante et c'est normal. Après, la question, c'est aussi comment gérer au plus efficacement la crise sanitaire. Le plus efficacement que des gens, à un moment, puissent sortir du confinement sans aggraver le risque sanitaire. Donc, c'est toute la question des tests. Des tests à grande échelle et de la sortie du confinement.
Alors, avant-hier, il y avait 3 300 000 chômeurs supplémentaires aux États-Unis. Les licenciements interviennent très rapidement. On le sait, l'économie américaine est souple, les licenciements se font facilement. Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, estime que le taux de chômage pourrait atteindre les 20%. C'est colossal, Gilles Dufresneau.
Oui, alors ce sont des prévisions. Hein. Jérôme Bullard, lui, dit 25%, donc évidemment c'est colossal. La question en fait importante, c'est de savoir est-ce que finalement ce qui est en train de se produire, c'est un simple trou d'air, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est une grosse arrêt de l'économie qui va durer un ou deux mois et puis après ça l'économie repartira en rebondissant. Donc ça veut dire que les chômeurs énormes qui auront eu le stock va diminuer, ou bien, et c'est ce qui interroge le président Trump et puis les économistes, est-ce que il y aura une telle destruction de la capacité productive que pour retrouver la situation d'avant-crise, la situation que l'économie américaine connaissait jusqu'en 2008, ça va être long. Mais c'est évident que là, il s'agit d'un gros choc. Et la question, c'est est-ce que le choc est simplement temporaire ou bien est-ce qu'il est appelé à durer?
C'est-à-dire, il suffit, c'est un moteur qui tombe en panne, il suffit de donner deux coups de pied dedans et il repart?
Mais ça, tout dépend de la gravité de la crise, vous voyez. C'est que si l'économie américaine se met à l'arrêt, si elle se met à l'arrêt durablement, on peut imaginer que à force vous ayez une érosion du capital physique, une érosion du capital humain, et donc pour redémarrer, ça peut être plus long.
Gilles Dufresneau, qu'appelez-vous érosion du capital humain?
Ben, ça veut dire que lorsque vous baissez votre capacité de production, lorsque vos machines, on va dire ça simplement comme ça, sont à l'arrêt pendant un certain nombre de temps, lorsque les gens restent au chômage de façon durable, eh bien il faut un certain temps avant de retrouver, si vous voulez, les niveaux de productivité que vous avez avant le choc, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a cette interrogation. Je dirais que aujourd'hui, ce qui suscite le débat, vous avez parlé du dilemme, de ce fameux dilemme tout à l'heure, c'est que beaucoup d'hommes politiques, en particulier aux États-Unis, ont le regard tourné sur l'après-crise. C'est-à-dire que, bien sûr, on gère la crise actuelle, mais beaucoup de personnes se demandent ce qui va se passer pour l'économie après. Et c'est en anticipant cela qu'on essaie de prendre, en tout cas l'État américain, essaie de prendre des mesures dès maintenant pour limiter la casse, si on peut dire les choses comme ça.
Alors, Jezabel Coupet-Soubeyran, on est resté, j'ai l'impression, au milieu du guet dans vos dernières explications, c'est-à-dire vous expliquiez la crise se transmet du secteur réel au secteur financier. Est-ce qu'elle peut réverbérer, en quelque sorte, et revenir du secteur financier au secteur réel?
Ah oui, bien sûr, si une crise bancaire et financière éclatait véritablement, les répercussions seraient extrêmement lourdes sur l'économie réelle et les difficultés seraient encore plus difficiles à endiguer. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument prévenir cette contagion au niveau...
Expliquez-nous le mécanisme. Comment une crise qui est financière, on l'a déjà vécu en 2008, comment une crise financière peut détruire des emplois, des vies, des entreprises, des usines?
Si vous voulez, lorsqu'on est en situation de crise bancaire et financière, eh bien, le financement de l'économie devient complètement paralysé. Et donc, il devient extrêmement difficile pour les entreprises d'obtenir des liquidités, des financements nouveaux. Et ensuite, eh bien, ça peut déboucher, évidemment, sur des faillites d'entreprises, sur du chômage. Mais j'aimerais, si vous voulez, insister sur le fait que on est là dans une situation qui est quand même très particulière, très inédite. Et là, il ne s'agit pas vraiment, en fait, de s'interroger sur la façon dont on pourrait rebooster nos économies. Il s'agit vraiment de s'interroger sur la façon aujourd'hui, dans ce temps d'urgence, de compenser des manques à gagner, de compenser des pertes. Et donc c'est vraiment ça important. Et en faisant en sorte de ne pas fragiliser les situations financières. Parce que si on fragilise les situations financières, alors le risque de crise financière sera d'autant plus grand et rendra la gestion de la crise extrêmement difficile. Donc comment apporter en fait toutes les aides nécessaires, comment financer aujourd'hui toutes les aides nécessaires sans augmenter le risque de crise financière, sans fragiliser davantage les situations financières. Ça pose vraiment la question du mode de financement des plans budgétaires. Aujourd'hui, ces plans budgétaires, tels que le plan américain, sont financés par la Banque centrale qui va, en fait, acheter les titres de dette émis par le Trésor. Hein. Ça s'inscrit dans le cadre de leur très gros programme d'achat d'actifs et ça se fait partout. L'embêtant avec ce type d'action, qui est en fait l'action qui avait été mise en place également pour gérer la crise financière de 2007-2008, c'est que ce mode de financement va considérablement alourdir à la fois d'ailleurs la dette des entreprises et la dette des États. Alors, peut-être que pour les États-Unis, c'est pas complètement dramatique parce que les bons du Trésor américain constituent toujours une valeur refuge et les investisseurs en voudront sans doute encore longtemps de cette dette publique américaine. En revanche, vous voyez, pour une situation comme celle de l'Europe, là, ça devient beaucoup plus problématique parce que les États membres de la zone euro ne mutualisent absolument pas leur risque de défaut souverain. Il n'y a pas de rebond. Et par conséquent, ce mode de financement des plans budgétaires risque à terme d'exposer les États à une crise des dettes souveraines. Donc pour l'État, pour les États de la zone euro, c'est un risque fort. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Il me semble en fait. Alors c'est peut-être, si vous voulez, un raisonnement un peu trop théorique et qui sort du cadre institutionnel des banques centrales actuelles. Mais il serait possible de faire autrement. On l'a dit tout à l'heure, on est dans une situation d'urgence absolue. Il s'agit de compenser des pertes. Les États pilotent l'aide d'urgence. Les banques centrales doivent financer. Mais elles doivent financer sans augmenter la dette des États. Et donc, comment faire? Eh bien, elles peuvent le faire en monétisant totalement cette aide. C'est-à-dire, non pas en achetant la dette des États, mais en leur transférant directement la monnaie centrale nécessaire à leurs dépenses. Aucune banque centrale aujourd'hui ne procède ainsi.
Gilles Dufresneau, le rôle des banques centrales est vital en ce moment aux États-Unis comme en Europe?
Oui et non. Oui, dans le sens où, évidemment, on attend d'elles qu'elles soutiennent, qu'elles viennent en appui des politiques budgétaires. Non, dans le sens où, de mon point de vue, la question ici, ce n'est pas simplement de trouver un prêteur en dernier ressort, mais c'est de trouver quelqu'un qui procure un revenu en dernier ressort. On est là face à une question qui est très concrète, c'est que la trésorerie des entreprises avec la crise est en train de baisser, que de nombreux ménages n'ont plus de revenus. Et donc là, la question est simple, hein, il s'agit de trouver un revenu de substitution pour les salariés et pour les entreprises. Alors, à mon sens, c'est pour ça que les États sont en première ligne. Il faut bien comprendre que, d'un côté, effectivement, ça fait augmenter la dette publique, mais de l'autre côté, c'est pas une dette publique qui est inutile. Si vous voulez, souvent, quand on parle de la dette, on regarde simplement les montants, mais il faut regarder aussi à quoi sert la dette. Et il se trouve que, cette fois-ci, cette dette publique, elle sert à ça, elle sert à apporter de la trésorerie, à éviter que les entreprises ne succombent parce qu'elles auront eu des problèmes de trésorerie graves et que les ménages, éviter que la consommation ne s'effondre, ce qui aurait des conséquences vraiment dramatiques sur l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans la situation de 2008, on n'est pas dans une situation où, au départ, vous aviez une crise qui était liée à des problèmes de liquidité. Donc, Les banques centrales sont, je dirais, en deuxième ligne, mais en première ligne, il me semble que c'est très important. Et je trouve que nous, parfois, les économistes, nous avons beaucoup de mal à modifier ou faire évoluer nos grilles de lecture. Je crois que la question sur le surendettement des États, on verra ça après la crise. Pour le moment, nous sommes dans une urgence et très clairement, c'est aux États de monter au créneau. Bon, ça c'est un point de vue. Alors, je pense que Jezabel faisait référence sans aucun doute à la monnaie hélicoptère. Bon, effectivement, il y a un certain nombre de pistes qui peuvent être suggérées dans ce sens, mais de mon point de vue, ce sont vraiment les États qui sont en première
ligne.
Alors,
la monnaie hélicoptère, précisez-nous ce que c'est, Gilles Dufresneau.
La monnaie hélicoptère, c'est cette idée que les banquiers centraux payent directement, soit les ménages, soit les entreprises. Alors, je pars sous le contrôle de Jezabel, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais c'est l'idée que vous avez, alors ils appellent ça un drone monétaire, c'est que la monnaie, le banquier central paye directement les ménages et les entreprises.
C'est-à-dire, il dépose sur mon compte, sur votre compte, sur le compte de nos auditeurs, une certaine somme.
Voilà, un certain montant. Bon, effectivement, l'avantage de ça, c'est que ça évite aux États de s'endetter, mais ça pose un autre problème parce que en réalité, ça correspond, si vous voulez, c'est comme si le banquier central me fait un prêt remboursable à l'infini. Donc, ça veut dire que ça peut avoir des répercussions sur les bilans les bilans des banques centrales, parce que il faudrait provisionner finalement des prêts qui ne sont pas destinés à être remboursés. Donc, bon. Donc,
mais voilà. Est-ce qu'une banque centrale peut faire faillite, Emmanuel Jessua?
Non, la capacité des banques centrales semble quand même suffisante pour éviter ce scénario. Donc leurs capacités d'action sont extrêmement importantes. Je voudrais revenir peut-être sur le sujet spécifique de la zone euro qui est très particulier parce qu'en fait on a là une construction qui est incomplète où l'échelon auquel se décide la politique monétaire est très différent de l'échelon où se décide la politique budgétaire. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, c'est les États membres qui décident chacun de leur politique budgétaire, qui font face à leurs propres contraintes budgétaires, alors que tous ont une monnaie commune et les décisions se prennent à Francfort sur la politique monétaire. Et donc là, le but de l'intervention de la BCE, ça a été d'éviter que des États membres se retrouvent très rapidement en impossibilité de creuser leurs déficits pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise. La priorité, c'est effectivement de soutenir les entreprises et les ménages, en particulier les entreprises pour éviter les destructions difficilement réversibles du tissu productif qui ralentiront la reprise. L'intervention, les rachats massifs d'actifs de la BCE permettent de calmer notamment les taux auxquels doivent se financer les États. C'est un problème particulièrement crucial, évidemment, évidemment pour l'Italie. Alors ensuite, il y a des problèmes politiques internes, si vous voulez, à l'Europe, qui font qu'effectivement la mutualisation est très limitée. Il y a l'opposition notamment de l'Allemagne, mais peut-être encore plus de pays comme les Pays-Bas, la Finlande, pour être accommodant avec des pays qui sont en difficulté budgétaire. Et donc, pour l'instant, l'idée d'avoir une partie des dettes qui soient mutualisées, notamment les dettes qui seraient provoquées par la crise du coronavirus, et pour l'instant au point mort, les fameux Covid bonds.
L'une des grandes fonctions des banques centrales et de leurs gouverneurs qui les incarnent souvent, c'est de rassurer les marchés, les acteurs économiques. C'est le cas partout, notamment pour les États-Unis et le patron de la Fed qui joue traditionnellement un rôle médiatique important, un rôle politique et économique et financier important. Et alors pour en parler, Pierre-Yves Dugas, vous êtes là, rebonjour.
Rebonjour Jean-Pierre.
Pierre-Yves, vous êtes donc le monsieur Wall Street de RFI en temps normal. Je le rappelle, vous êtes aux États-Unis, mais la crise vous trouve confiné en France. Est-ce que depuis le début de cette crise, le gouverneur de la Fed, Jérôme Powell, s'est montré rassurant?
Je dirais jusqu'à jeudi, pas vraiment.
Il avait jusqu'à présent surtout cherché à démontrer que la Fed comprenait la gravité des dysfonctionnements dans les marchés de crédit, que la Fed comprenait la violence de la récession et disposait des moyens pour la combattre. Et puis jeudi, à l'occasion d'un entretien sans précédent sur la chaîne NBC dans l'émission matinale de Today Show, Jay Powell est apparu sur l'écran et là on a senti qu'il voulait vraiment rassurer et s'adresser directement à l'américain moyen et pas simplement au monde de la finance. Jamais un patron de la Fed n'apparaît à l'émission du matin à la télévision. Et il a expliqué, j'emploie les termes qu'il a employés, que l'Amérique basculait dans une contraction substantielle de l'activité. Et il affirme penser, comme beaucoup d'autres, qu'au second semestre, cette activité va rebondir. Alors cette intervention télévisée était pédagogique et elle cherchait à corriger l'impression, quand même, il faut le dire, du demi-échec de la première intervention de la Fed le 3 mars. La Fed avait donné l'impression un peu de combattre la rechute du mal des années 2008-2012 en annonçant un retour au taux zéro et la reprise de rachat des créances publiques. Et puis cette mauvaise impression a été corrigée par la suite avec les annonces qui ont été faites 12 jours plus tard, où on voit maintenant que la Fed va bien au-delà de ce qui avait été fait en 2008 par Ben Bernanke et qu'elle propose un assouplissement quantitatif sans limite dans le temps, dans le montant et même dans la nature des créances qui sont rachetées, puisque la Fed va racheter des créances aussi privées.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Jerome Powell fait preuve de leadership, un mot auquel les Américains attachent beaucoup d'importance?
Il essaye, il a un style, c'est un homme calme qui parle de manière posée. Alors il fait dans le mode pédagogique depuis quelques jours. C'est pas facile d'être un leader quand on n'est pas soi-même économiste. Jay Powell est un banquier. Il est arrivé bombardé par Donald Trump d'ailleurs à ce job au milieu d'économistes. Donc il doit faire preuve de beaucoup de pédagogie et de chercher un consensus. Sa plus grosse erreur qui a considérablement écorné son image de compétence s'est produite assez tôt. C'était à la fin de l'année 2018, il a relevé les taux de la Fed mi-décembre, le marché n'a pas compris et il a dû un peu se déjuger début janvier 2019 en annonçant un gel des mouvements du taux directeur de la Fed. Depuis, il a regagné beaucoup de crédibilité, il a fait preuve de leadership en particulier face au barrage d'insultes qui se sont accumulés sur lui et qui ont été lancés à son propos par le président Trump, en évitant soigneusement de rentrer dans la polémique et en laissant d'autres que lui défendre l'indépendance de la Fed.
Alors oui, vous faites allusion, Pierre-Yves Dugas, aux insultes, aux critiques extrêmement virulentes que Trump a l'habitude de déverser sur beaucoup de ses compagnons de Washington et en particulier sur Powell, sur le gouverneur de la Réserve fédérale qu'il a lui-même nommé. Pourtant, est-ce qu'il continue en pleine crise à l'accabler de toutes les critiques et de tous les noms d'oiseaux?
Alors écoutez, pas pour le moment, mais regardez, il n'est que tôt le matin ici, Donald Trump peut encore nous envoyer des tweets. Il va être difficile pour Donald Trump de critiquer Jay Powell maintenant, parce que Jay Powell a appliqué tout ce que Donald Trump lui demandait de faire depuis des mois. C'est-à-dire le retour à des taux zéro, le retour de l'assouplissement quantitatif, et c'est tout de même la grande ironie de cette catastrophe économique, la Fed est en train de tolérer, voire d'orchestrer, l'apparition de taux d'intérêt négatifs aux États-Unis, on le voit déjà sur les obligations du Trésor à un mois et à trois mois. C'est ce que, depuis plusieurs mois, demandait, sans grande justification d'ailleurs, Donald Trump, mais la crise du coronavirus a complètement changé le contexte.
Merci Pierre-Yves Dugas. Gilles Dufresneau, au vu de Marseille, est-ce que l'intervention de la Réserve fédérale américaine est fondamentale à la fois pour l'économie états-unienne, américaine, mais aussi pour les autres régions du monde, Afrique inclus?
Oui, alors elle est fondamentale d'abord pour les États-Unis parce que les banques vont avoir besoin de débloquer un certain nombre de lignes de crédit pour des clients qui sont en tension, qui ont des trésoreries en tension. Donc la banque centrale joue un rôle de backup un petit peu derrière.
Alors un rôle de backup, ça veut dire un rôle de réserve.
de réserve, il faut que les banques puissent se refinancer facilement, donc c'est très important. Et puis le deuxième point, c'est qu'au niveau international, vous avez eu des discussions récemment entre la Réserve fédérale américaine et puis un certain nombre de banques centrales, la BCE, la Banque du Japon, la Banque de Suisse, etc. Et pour que éviter que le monde soit dans une situation de pénurie de dollars, parce que vous avez dans le contexte actuel, vous avez une demande très forte de dollars, donc la Fed arrive comme fournisseur, évidemment, en dernier ressort de dollars. Donc ça, c'est vrai globalement. En ce qui concerne les banques centrales africaines, la situation est un tout petit peu...
J'allais vous en parler.
Un tout petit peu différente, parce que vous avez eu... les banques centrales africaines sont un peu... Vous voyez, la crise du coronavirus démarre tout juste, et on a peut-être moins de risques d'avoir des problèmes de liquidité dans les économies africaines que dans les autres pays. Donc pour le moment...
La Banque centrale des États de l'Ouest africain a quand même débloqué 340 milliards de francs CFA.
Oui, tout à fait, pour venir en aide, c'est à la disposition des banques, mais si vous voulez, fondamentalement, c'est pas le problème n'est pas aussi aigu et se pose pas dans les mêmes termes que pour les pays industrialisés, quoi, si vous voulez. Parce que traditionnellement, les banques sont plutôt en situation de surliquidité. Donc c'est la situation est un peu je crois que on ne peut pas comparer directement, si vous voulez, la stratégie de politique monétaire des banques africaines, BCEAO ou BA comprises, et puis de ce qui se passe en Europe ou dans les pays industrialisés, où là, vraiment, la crise, on est vraiment à un moment très, très fort de la crise. On verra après peut-être que les choses changeront.
La BA, je le précise pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est la Banque des États d'Afrique centrale. On revient aux États-Unis et on part en Californie, qui a été le premier État américain à décréter le confinement total de sa population. C'était le 19 mars, une décision du gouverneur Gavin Newsom. 40 millions d'habitants interdits de sortir de chez eux. Et la cinquième économie de la planète placée en hibernation. Seule, comme ailleurs, les épiceries, les supermarchés, les banques, les stations-service restent ouverts. Deux jours avant, la ville de San Francisco et sa région avaient pris cette décision au niveau local. C'est là que siègent les géants du numérique, Apple, Google, Facebook et quelques autres moins connus. C'est là aussi qu'on retrouve notre correspondant, Éric de Salve. Bonjour Éric.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Premier indicateur de la dépression annoncé, le nombre hebdomadaire de nouvelles inscriptions au chômage annoncé jeudi, qui explose aux États-Unis et en Californie. Parce qu'Éric, parmi les 3 millions de nouveaux inscrits, le tiers, ce sont des chômeurs californiens.
Oui Jean-Pierre, la Californie qui passe en quelques jours du plein emploi au chômage de masse, tout a basculé après une semaine seulement de confinement, le gouverneur l'a annoncé mercredi, 1 million de nouveaux chômeurs inscrits, la plupart, indique Gavin Newsom, sont des travailleurs âgés. Pour vous donner une idée de l'ampleur inédite de ce chiffre, c'est plus que le record historique de 700 000 inscriptions hebdomadaires remontant à 1982, mais ça c'était au niveau fédéral et pas seulement à l'échelon californien. Alors pour stabiliser en urgence la situation, en plus du gigantesque plan de relance fédéral de 2 trillions de dollars, le gouverneur californien a annoncé un plan d'aide d'urgence pour compenser une économie presque totalement dépourvue de protection sociale. Il a notamment négocié avec certaines banques un léger rééchelonnement des remboursements de prêts et des saisies immobilières. À San Francisco, de nombreux restaurants ont déjà annoncé leur fermeture définitive et contrairement à Donald Trump, le gouverneur de Californie annonce que cela va durer. Ne croyez pas une seconde, dit-il, que l'ordre de confinement sera levé d'ici un jour ou deux. Il ne le sera pas non plus dans seulement une ou deux semaines. À San Francisco, les commerçants l'ont bien compris. Dans certains quartiers comme celui de Mission, beaucoup ont déjà collé de larges panneaux de contreplaqué sur les portes et fenêtres de leurs magasins.
Et le confinement, Eric, freine aussi l'activité de la Silicon Valley. Tous les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple revoient leur bilan à la baisse, n'est-ce pas ?
Oui, situation tout à fait paradoxale pour la Silicon Valley, car confinement oblige, tous les géants californiens du numérique voient leur fréquentation exploser. À l'inverse, leur principale source de revenus, la publicité, elle, s'effondre. Lundi, Twitter annonçait ne pas pouvoir atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2020. La firme revoit donc à la baisse ses dépenses, ses embauches et ses dividendes. Même chose pour Facebook. Ce mardi, le réseau social annonçait que le nombre de messages échangés a plus que doublé depuis le début de la pandémie. pandémie. Explosion spectaculaire également du temps passé sur sa filiale WhatsApp, plus 1000% pour les appels en groupe passés par exemple en Italie. Mais nous voyons notre activité publicitaire s'affaiblir, dit Facebook par communiqué, dans les pays qui prennent des mesures draconiennes contre le Covid-19. Même chose évidemment pour Apple qui, depuis début février, a fermé tous ses magasins en dehors de Chine.
Mais la pandémie va sans doute profiter au commerce en ligne, Eric, et donc bien sûr à Amazon.
Oui, pour faire face à l'explosion de la demande en ligne, Amazon annonçait la semaine dernière le recrutement de 100 000 personnes. Et si les chaînes d'approvisionnement ne sont pas rompues par l'épidémie, le géant de Seattle devrait donc être un des seuls, avec Netflix, à sortir renforcé de cette crise. Les titres Amazon et Netflix sont d'ailleurs parmi les seuls à être en hausse et ils permettent au Nasdaq, l'indice technologique de Wall Street, de limiter ses pertes.
Merci Eric De Salve. Isabelle Coupet-Souberan, vous avez entendu ce que disait notre correspondant en Californie. Une fois de plus, on a l'impression que les seuls qui s'en sortent, ce sont les GAFA, Google et autres.
Oui, effectivement, les géants du numérique vont sans doute être à peu près les seuls à s'en sortir, parce que dans cette situation, on est quand même, pour le reste, à peu près tous perdants. Et après, ce sont les, comme à chaque fois, si vous voulez, les plus fragiles qui vont perdre le plus. Et là, ces géants du numérique qui vont renforcer leur position dominante. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Après, on peut aussi voir cette crise un peu autrement et un peu plus positivement, en se disant que elle nous donnera quand même peut-être l'occasion de réfléchir à nos régimes de croissance, à notre contrat social aussi au sein de chaque pays, et de faire évoluer les choses pour l'avenir. Alors c'est peut-être moins clair c'est peut-être moins clair en ce qui concerne les États-Unis, parce que aux États-Unis on voit bien quand même que la priorité, c'est avant tout la survie de l'économie américaine, et pas tant la survie des Américains eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Je voudrais peut-être aussi, si vous me le permettez,
brièvement apporter... Isabelle, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Bon. D'accord. Juste apporter un bémol à ce qui a été dit tout à l'heure à propos de l'action de la Fed. Je pense qu'elle est très tournée vers l'économie américaine et pas tellement tournée vers l'économie mondiale. Hein. C'est-à-dire que la Fed n'est pas un prêteur en dernier ressort international, même s'il y a eu des accords effectivement pour fournir les autres banques centrales en dollars. Et puis un bémol aussi concernant la situation en Afrique. Il y a deux conditions en fait pour arriver à gérer cette crise sanitaire, c'est avoir un bon système sanitaire et sinon pouvoir organiser un confinement. Il y a ni l'un ni l'autre en Afrique, et c'est tout le problème, ce qui veut dire qu'il va falloir quand même rapidement organiser une aide internationale. Et est-ce que cette aide internationale sera au rendez-vous? Si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'en fait la pandémie va se poursuivre, qu'elle va se dérouler en plusieurs vagues et qu'on n'est vraiment pas en fait au bout de nos peines.
Eh bien, Isabelle Coupet-Souberan, c'est sur cette note pas trop optimiste, je dois dire, que se termine cette émission. Merci à vous trois, Emmanuel Jessua, Isabelle Coupet-Souberan, Gilles Dufresneau, d'avoir accepté l'invitation de RFI, d'être resté pendant trois quarts d'heure pendu au téléphone. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster sur l'application Pure Radio de votre smartphone, sur le site internet www.rfi.fr, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir, prenez soin de vous.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Religion du